Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blas au micro et Maurice Bolduc à la technique. Oui, ce vendredi pluvieux. Alors là, on a eu des journées, des belles journées aussi dans le courant de la semaine. Première partie d'émission, je vous ai proposé concocter quelques sujets, différents sujets. On va parler bien, je vais parler bien évidemment de Roland Garros, ça c'est clair, et puis d'autres choses aussi. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir le porte-parole de la virée. Du printemps, Jean-Claude Poitras, qui va nous parler de cette 13e édition de la virée du printemps. Voilà, du 27 au 29, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà, c'est comme ça. Ça commence pour les amoureux des arts, de la mode et puis des métiers d'art aussi. Tout est là-dedans. Voilà, personne ne va rater quelque chose. Mais bien avant ça, ça c'est en deuxième partie d'émission, à partir de 17h30, bien avant ça, j'ai pas mal de sujets à aborder d'abord. Je vais parler dans un premier temps de développement durable, ouais, parce qu'on parle de éco-anxiété, c'est une expression qui me fait tellement sourire. Bon, ça, mais et pourtant ça fait tellement longtemps que ça existe. C'est un mot qui a été forgé en 97 par Véronique Lapège. Ouais, enseignante chercheuse d'ailleurs canadienne et belge, canado-belge-belgeo-canadienne, on peut dire ça comme ça. Qui a observé d'ailleurs qu'individuellement ou bien collectivement, un nombre grandissant de personnes qui ressentaient un mal-être et souvent un besoin de se responsabiliser face au changement climatique et aux crises environnementales. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de là qu'est née l'éco-anxiété. Voilà, ça n'existait. On l'utilisait pas, on l'employait, mais ça, de plus en plus, on l'entend d'ailleurs. Donc, dans sa définition du phénomène, ce médecin de formation précisait qu'il n'avait rien de pathologique. Mais qu'en est-il exactement aujourd'hui? Voilà, ça c'est quelque chose, que ce soit des initiatives individuelles comme celle de Greta Thunberg, la petite suédoise, ou bien de Ralin Statin Thanasarn de Thaïlande, ou bien Léa Nagouverna d'Ouganda, ou encore d'autres personnes qui sont très engagées, qu'on voit souvent sur le web ou bien à la télévision, comme celle de comme les collectifs comme celle des ingénieurs en aéronautique ou bien des centraliens de Nantes ou bien des jeunes diplômés d'Agro Paris Tech. Tout ça, ce sont des collectifs qui se motivent là pour cette histoire d'anxiété, d'éco, d'environnement. Effectivement, c'est ce qui fait que je me suis dit, tiens, il faut que je parle parce que c'est devenu un sujet d'actualité. Il y a une lame de fond de colère qui semble traverser une partie de la jeunesse. Voilà, c'est eux qui sont souvent visés d'ailleurs, parce qu'ils se disent que ils n'ont plus d'avenir, tout est foutu. Voilà, les anciens ont tout foutu en l'air, eux n'ont plus d'avenir. Donc cette colère provient de l'inaction de leurs aînés face au dérèglement climatique, parce que les aînés ne font que de gros discours, mais en fin de compte, très peu d'action. Vous voyez, quand chacun sort de ces grandes rencontres, il arrive chez lui, c'est fini, quoi. Voilà. L'économie d'abord, ensuite, on peut parler d'environnement, sinon ils ne seront pas réélus. C'est ça. C'est là où le bât blesse, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot forgé en 97, par Véronique Lapège, ouais, et dont la définition n'apparaît pas encore dans notre dictionnaire. Mais on l'emploie souvent, il y a beaucoup de textes analystes ou bien de chroniqueurs qui l'utilisent d'ailleurs. Elle a été popularisée par la presse française lors des épisodes caniculaires de l'été 2019. Donc ça vient de là, c'est comme ça que l'on a commencé à se l'approprier, chacun de nous, l'emploi d'éco-anxiété. Il y a aussi virus-anxiété, coronavirus-anxiété qui est sorti aussi de quelque part, je ne sais d'où là. C'est la contraction de deux mots, écologie et anxiété. Éco-anxieux, c'est ça. Ou un éco-anxieux ou bien une éco-anxieuse qui développe d'ailleurs une inquiétude face aux catastrophes écologiques annoncées. Dérèglement climatique, perte de la biodiversité, pollution. Il y a plusieurs sortes de pollution. Il y a la pollution sonore, il y a la pollution... je ne sais quoi encore, la pollution numérique, dont beaucoup de jeunes gens sont victimes d'ailleurs. La pollution numérique, c'est le fait même d'ailleurs d'être entouré de vivre au milieu des appareils électroniques. Ça, c'est la pollution numérique, ça vient de là aussi. Il y a la déforestation, et cette anxiété, c'est une anxiété par anticipation née de la prise de conscience des impacts à court et à long terme du changement climatique. bien sûr, nourri par les différents scénarios établis par des scientifiques, voilà, comme ceux du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, ou par le constat que des événements liés à ce dérèglement climatique sont déjà observables. Et quelle est la différence avec la solastalgie? Ça, c'est aussi un autre mot, la solastalgie. C'est un néologisme utilisé en 2003 par le philosophe de l'environnement Glenn Albrecht, qui combine deux mots, le verbe solor, solari, qui signifie atténuer une détresse, apporter un réconfort dans une situation difficile, et le suffixe stalgia, ici du grec algia, qui signifie une douleur, qu'elle soit physique ou morale. Voilà, c'est en gros, c'est ça. C'est, et on ne retrouve pas pour l'instant souvent dans les chroniques, dans les analyses, solastalgie, mais ça fait son petit bout de chemin. Dans ce concept, il signifie, voilà, ce concept est né du travail de Glenn sur la santé mentale des habitants de la Hunter Valley en Australie, une région bouleversée par l'industrialisation et l'ouverture des mines à ciel ouvert. C'est ça. C'est dont le chercheur rapporte combien les habitants se sentaient étrangers à ce nouvel environnement. Sur ce plan, bon, il a trouvé qu'il y a beaucoup de points communs avec les aborigènes qui manifestent encore aujourd'hui la nostalgie de leur culture et leurs traditions qui sont presque entièrement 99% disparues, ça il faut le dire. Ouais, presque. Ou bien, je ne vais pas dire qu'ils sont en train de disparaître, elles sont déjà parties, les traditions et les cultures. Donc la solastalgie traduit donc une anxiété, un malaise face à ce qui est déjà perdu. Alors que l'éco-anxiété, c'est un mal-être lié à ce qui va advenir, ce qui va arriver. La peur, voilà, c'est ça. Eh bien, si l'un n'empêche pas l'autre, ceux qui ont vu leur espace de vie se dégrader nourrissent aussi des inquiétudes quant aux dégradations encore à venir. Alors, je tenais à parler de ça pour voir un peu, bon, éco-anxiété, et ensuite solastalgie, bon, qu'est-ce que vous voulez. On ne finira pas. Bon, présentiel aussi est aimé. Bon, peut-être que je vais revenir un jour sur ça. Pourquoi pas? Présentiel. Voilà, je vais revenir un jour sur ça aussi. Parce que là, vraiment, il y a tellement de nouveaux mots qui naissent. Qui naissent. Et bon, on quitte un peu l'écho. Il y a un défilé de mode qui va se passer demain, samedi. Le 28 mai, défilé première édition, voilà, ça va se passer comme ça. Où ça d'ailleurs? Au Théâtre Alphonse Desjardins. 25 allées de la création, ça, Repentigny, pour ceux qui seront dans les environs. L'entrée est gratuite, hein, ne vous en faites pas. Si vous aimez la mode, allez-y, voilà, voir les nouveautés là-bas de cette première édition de ce défilé de mode par Anna Collection. Et si vous souteniez l'entrepreneuriat féminin ou la diversité culturelle, rendez-vous au Théâtre Alphonse Desjardins, demain samedi, c'est de 15h à 18h. Vous n'avez rien à payer, vous allez voir la collection de collection Anna Collection, et sous les thèmes de confort et élégance. Et je pense bien que, voilà, vous allez en voir plein les yeux avec les jolis mannequins, hommes-femmes confondus, qui voyagent dans l'univers des tissus et des couleurs de l'Afrique, au plaisir de vous retrouver là-bas pour ceux qui seront feront le déplacement pour pouvoir rencontrer ces personnes qui sont derrière cette première édition de ce défilé de mode de 15h à 18h. Voilà. Je ne sais pas. Il y a le calque. Voilà, toujours le calque. J'aime bien parler de ce genre de choses parce que quand je vois ça, il y a beaucoup d'artistes qui ne savent même pas où aller chercher, où aller le regarder, ou bien qui vont très peu sur le site du calque pour aller découvrir ce qu'il y a là-bas comme projet, comme résidence. C'est ce qui fait que j'en parle ici de temps en temps. La résidence de recherche et de création pour architectes et artistes en art visuel à la British School à Rome. Voilà, résidence de recherche de création et de création à Rome. C'est un atelier résidence qui est offert aux professionnels en recherche architecturale, bien sûr, et aux artistes en art visuel, dont la démarche d'ailleurs est liée à la recherche architecturale. Les artistes sélectionnés pourront développer leur projet au sein de la prestigieuse British School à Rome. À Rome. Voilà. Date limite d'inscription, 23 juin 2020. 2022, pardon, à 23h59. Voilà. C'est studio et puis résidence. Allez-y sur le site du calque. C'est kalq.gouv, gouv.qc.ca, aide, résidence, recherche, création, architecte, art visuel, British School. Vous allez tomber là-dessus pour que vous arriviez, si vous êtes intéressé, vous êtes du domaine, vous arriviez à déposer votre dossier au plus grand tard. Oui, à le 23 juin 2022 à 23h53. Voilà. Et puis, il y a une autre résidence, un séjour de 2 mois au Pays Basque qui va permettre à un chorégraphe ou bien une chorégraphe québécoise ou bien un chorégraphe québécois de réaliser une œuvre chorégraphique de 10 à 15 minutes pour 12 danseurs professionnels affiliés à Tanzas. Voilà, date limite d'inscription 23 juin 2022 à 23h59 et séjour de recherche et d'exploitation d'un mois au centre culturel Tabacalera suivi d'un séjour de création production des mois au centre Tanzas. Ça, c'est au Pays Basque. Allez-y sur le site du calque. Je redonne ça. calque.gouv.qc.ca. Aide, résidence. Vous allez tomber sur ce que je viens de vous dire. Voilà, ça, c'est très simple. Avant de passer au tennis, je pense bien que j'ai besoin de mon petit jingle pour souffler un peu avant de passer à un autre sujet, parce que la musique, on va la passer un peu plus tard. Oui. Alors, il y a au tennis là-bas, à Roland-Garros, ça bouge. Et au calque encore, il y a quelque chose que je voulais parler du calque là, sincèrement. Parce que là, vraiment, il y a pas mal de prix qui ont été décernés à certaines personnes, à certaines catégories. Gabriel Boliane Tremblay qui remporte le prix des libraires catégorie roman, nouvelle. Il y a tellement de prix qui... Ouais, c'est des prix qui sont pas... Quand on dit prix, c'est qu'il y a de l'argent qui vient avec. Ouais, 10 000 dollars. Voilà, 10 000 dollars. Je vais vous citer ça. Il y a tellement de gens qui ont reçu ces prix. Et pour Gabriel, c'est tellement important parce que ce prix, remis en collaboration avec l'Association des libraires du Québec et assorti d'un montant de 10 000 dollars, a été remis à Gabriel Boliane Tremblay pour La fille d'elle-même, un roman qui s'inscrit dans la littérature de la transition. De la transidentité. Donc, le conseil a remis cette somme à Gabriel, lauréat du prix des libraires 2022 dans la catégorie roman. Voilà. Vous sentez. C'est ça, oui. Elle n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres qui ont gagné aussi. Donc, chaque année, la remise du prix des libraires est une occasion privilégiée de mettre en valeur l'audace, l'intelligence, la sensibilité et l'immense talent de nos écrivains. Écrivaine, bien sûr, et Gabriel en est un exemple éloquent. Ce prix est à la fois un symbole de reconnaissance et une incitation à poursuivre son travail. Elle est félicitée, elle est remerciée d'avoir enrichi l'univers littéraire du roman remarquable qu'est La fille d'elle-même, a déclaré Anne-Marie Jean, présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et son roman parle de quoi? Bon, bah, ça parle... à propos de la fille d'elle-même, c'est dans un village à la lisière d'une forêt de conifères. Une petite fille se sent différente. Tout le monde croit qu'elle est un garçon, souliers toujours trop petits, coupe champignons. Elle se fait traiter de fille manquée, fume des cigarettes pour ne plus grandir et traîne pendant toute son adolescence un garçon mort dans son portefeuille jusqu'à ce qu'elle se donne naissance en quittant la terre à l'origine de sa tristesse. C'est épopée identité, quête tant amoureuse que sociale. Donc, ce roman s'inspire, la fille d'elle-même s'inspire dans la littérature de la transidentité. Une lignée qui va des métamorphoses d'Ovid à Orlando, de Virginia Woolf, mais offre ici le paysage québécois avec son fleuve salé qui avale le mal et la douleur des filles rêvant de mettre le feu. Voilà. Enfin, une petite pause musicale, et puis bon, j'ai d'autres sujets. Roland Garros, il y a tellement à dire. On a 2 Québécois qui sont encore en liste. Un peu de musique, et puis je vous reviens. Oh, Semi et Makaya avec la complicité d'Acapo et San El. Voilà, je vais parler de Roland Garros. J'en finirai pas. C'est pas fini, ça continue. Ouais. Il y a des gens qui vont au troisième tour. C'est donc Félix Auger-Aliassime, notre Félix Auger-Aliassime, prochain adversaire de Rafael Nadal. Voilà, c'est pas évident. Ce garçon, il me surprend, il n'arrête pas de me surprendre. Je parlais de ça hier avec. Avec Myriam, c'est quand il a de dos au mur qu'il joue très bien, qu'il se dépasse, qu'il a le mental qui se rétablit, qui se met en place. Et puis bon ben côté force physique, je n'ai rien à lui reprocher. C'est le mental simplement qui lui permet qui doit lui permettre d'aller de l'avant, qui lui manque un peu quelquefois, qu'il se laisse aller puis il sort du tournoi. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas. Il va au troisième tour. Voilà. Il s'est montré vraiment, il faut le dire, hein, je veux le résumé du match, il s'est montré très impérial, hein, ouais. C'est après un premier tour compliqué d'ailleurs, je me rappelle bien du résumé du match que j'ai vu. Et il était dos au mur, c'est comme ça qu'il s'est réveillé, il s'est dit, oh, si je me réveille pas là, si je fronce pas, je risque d'être sorti comme ça dès le premier tour de Roland Garros 2022. Mais ça n'a pas été le cas. Ça, c'était contre le Péruvien Juan Pablo Varillas. 2-6, Pablo Miner. Hein. 2-6 encore après. Bon, mais Félix est revenu 6-1, 6-3, 6-3. Voilà, c'est comme ça. Il faut le mettre au mur là pour qu'il se réveille. Et ce qu'on beaucoup. Plus facile contre au deuxième tour comme Camilo Hugo Carabelli, là c'était 6-0, 6-3, 6-4. Ouais, il a un peu plus bataillé ce vendredi face au Corias Philippe Krajinovic. C'est le 35e mondial. Bon, il a 30 ans, faut pas l'oublier. Félix a 21 ans. Bon ben ouais, il a la différence d'âge qui compte aussi. Ouais. Faut pas se le cacher. Félix est beaucoup plus jeune, il y a 30, 21 ans, il y a 9 ans de différence, ça, il faut le dire. 85% de réussite sur première balle, ça fait 16 aces, comment dire, en termes de tennis, quoi. Tony Nadal, l'oncle de Nadal, c'est son coach. Hein. Je ne sais pas comment l'oncle va se comporter quand ton petit poulet rencontre ton neveu. Alors là, je ne sais pas. J'aimerais pas être à sa place. Voilà. T'aimerais ajouter quelque chose, toi, Maurice, c'est ça? Non. Alors là, j'espère que Tony Nadal va bien se comporter. Il va lui donner tous les petits secrets, le Donald, là, faut dire, allez, vas-y, tu peux le battre, vas-y. J'espère. Alors, il va se retrouver en huitième de finale face à Rafael Nadal, vainqueur au même moment de Botik van de Zandschulp sur l'Irlande, 6-3, 6-2, 6-4. Voilà. Ça, c'est un match auquel je m'attendais d'ailleurs. Je pense bien qu'il a déjà rencontré une seule fois ou bien quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer en huitième de finale du Roland Garros face à Rafael Nadal? Voilà, qui s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale aussi. Nadal n'a connu aucune difficulté pour écarter Botik van Zandschulp. Oui, ouais, il va affronter Félix Roger Aliassine. Et Félix, il y a des questions qui lui ont été posées, comment il répondait d'ailleurs. On lui a demandé, votre prochain adversaire est Nadal, Rafael Nadal, dont l'oncle Tony est de vos entraîneurs. C'est une situation particulière, non? Est-ce que Tony vous a donné des conseils sur la façon de lui battre? Je ne sais pas s'il y a des moyens de le battre. Nous savons tous où il excelle et je ne pense pas que Tony puisse me dire quoi que ce soit de nouveau sur Nadal. Mais on en a parlé. Oui, depuis le début de notre travail en commun, nous avons évoqué la possibilité que j'affronte Rafa. C'est comme ça que les gens l'appellent, ses intimes, ses collègues aussi. Rafa, ils disent pas Raphaël, ils disent Rafa. À un moment donné, je pense que Tony observe le match depuis une zone neutre. Et puis de mon côté, c'est une nouvelle opportunité de disputer un match de qualité. Et puis, peut-être aussi d'emporter la victoire face à Nadal, à Rafa. Et ce sera difficile, mais la carrière de Rafa, tout ce qu'il a accompli, c'est bien plus grand que le match. Ça dépasse tout. Voilà. Mais vous avez une autre question. Et vous avez affronté Nadal une seule fois, il y a 3 ans, au Master 1000 de Madrid. Victoire de Nadal 6-3, 6-3. Quand avez-vous retiré de cette rencontre? Il dit, déjà, je suis un joueur bien différent. Il faut le préciser, mais j'ai de bons souvenirs de ce match d'ailleurs. Mais il a de très bons souvenirs, hein, ouais. Mais j'ai le sentiment de ne pas avoir joué mon meilleur tennis à l'époque, ouais. Et lui, il revenait après quelques temps d'absence. Il s'était tendu au début. Mon service était plutôt bon, mais après, j'ai ressenti la pression et j'ai un peu forcé mon service et mes coups. Lui, après un break, il a changé de bracket et il a gagné en confiance. Mais je suis un joueur bien différent d'il y a 3 ans. Ça se voit d'ailleurs dans son style de jeu, sa manière d'aborder les gens. Et puis, on lui a demandé pour une dernière question, est-ce que vous avez une idée de la tactique à adopter? Je ne sais pas, on n'en a pas. Il dit, mais il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, je le connais. Je l'ai vu jouer maintes fois et je sais où il excelle. On verra sur le cours, hein. Si j'arrive à trouver des solutions, je vais essayer d'aborder ce match comme les autres. De toute façon, s'il y avait un secret pour battre Rafa, il n'aurait pas gagné 13 fois avec celui de sourire. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un là-bas qui a aussi gagné, qui va en quart de finale, qui va au Diego Schwartzman, qui recrute l'Argentin, qui réclame des billets pour la finale de la Ligue des Champions. Real Madrid, Liverpool, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est quelque chose. Il est fan de football, cet Argentin-là. Il a demandé ce vendredi, aujourd'hui, sa victoire au troisième tour de Roland-Garros, si quelqu'un pouvait lui donner des places pour la finale de la Ligue des Champions. Qui a des billets pour moi? A demandé en conférence de presse la tête de série numéro 15 de Roland-Garros. Et puis bon, ouais. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, je demande à tout le monde, donnez-moi les billets pour demain. Au lieu de se concentrer sur son tournoi, je peux y aller tout seul. Franchement, pas de problème. J'adore le football. J'adore ce type de match. Et puis, ces derniers jours, il suivait aussi simplement Boca Juniors, qui est son équipe préférée en Argentine. Et il pense que le match de demain sera fantastique, encore une fois. Si vous avez des billets, n'hésitez pas à me les donner. Je vais aller voir le match. Son coach ne doit pas être content, hein, d'entendre des choses comme ça de la part de son poulain qui est en tournoi de Roland-Garros. Il va aller voir un match de soccer, un match de foot à Paris. Bon, ça ne regarde que lui. Et puis, il y a la jeune américaine Coco Gauff, toujours. Coco Gauff. Alors là, elle aussi, 18 ans, elle a éliminé Estonia Kaia Kanepi. Voilà. Voilà. Je reviendrai sur ça la semaine prochaine, ça c'est clair. Ou bien après mon invité. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, Jean-Claude Poitras, qui est porte-parole du printemps, de la 13e édition, pas pour la porte-parole de la virée du printemps, bien sûr, c'est la 13e édition. À tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, on a une deuxième partie d'émission, comme je l'avais dit. Pour ceux qui viennent de prendre Escale 17-18, c'est tous les jours, lundi, vendredi, de 17h à 18h. Mon invité est déjà au bout du fil, ce grand monsieur Jean-Claude Poitras, qui est le porte-parole de la virée du printemps. Oui, pas seulement de la virée du printemps, le porte-parole de la virée des ateliers. Et voilà, il est à nouveau le porte-parole de la virée du printemps, il faut bien préciser.
Voilà.
Oui, je me suis repris là, Jean-Claude.
J'allais vous corriger. Ah,
bonjour à vous.
Bonjour, merci de l'invitation, je suis très touché.
Moi, je suis beaucoup plus touché que vous de vous avoir et puis de parler un peu de cette 13e édition. Ça va vite, hein.
Ah, c'est incroyable, vraiment. On n'a pas vu le temps passer, mais là, c'est après prendre une ampleur qu'on ne soupçonnait pas au départ. Hein. Moi, je me suis toujours intéressé à la virée des ateliers parce que je suis toujours à l'affût d'aller à la découverte, finalement, de tous les talents créatifs que l'on a ici. Oui. Alors, donc, je visitais religieusement chaque année cette virée qui était au départ très modeste et tout, mais ça me fascinait d'aller de découverte en découverte, d'ateliers, quand vous savez, des artisanes, des peints, des sculpteurs, des céramistes vous ouvrent leurs portes d'atelier, les designers de mode aussi, et puis qu'ils vous racontent cette belle histoire derrière une œuvre et tout, on regarde plus l'objet, le vêtement, la pièce de céramique ou le tableau de la même façon. Il y a comme un supplément d'âme, vous comprenez, d'aller les rencontrer dans leur lieu de travail. Alors c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Oui. Avant de continuer, je vais pas tenir ça pour acquis pour dire que tout le monde connaît Jean-Claude Poitras, que je vais pas le présenter. J'ai une petite présentation que j'ai faite, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Vous êtes le porte-parole de la virée depuis 2019.
Voilà.
Ouais. C'est qui crée d'ailleurs depuis 1972 une œuvre remarquable, ça il faut le dire. Vous êtes le chef de file de la mode canadienne. Je dis bien canadienne. Véritable ambassadeur reconnu dans le monde entier. Vous avez présenté vos collections sur les plus grands podiums internationaux. Celui qui a valu une reconnaissance nationale et internationale des prix Moda del Amo en Californie, au Fil d'Or à Monte Carlo, du ARC Award à Toronto et à la Griffe d'Or à Montréal. Mmh. Ouais. Également, vous avez décerné l'Ordre national du Québec ainsi que l'Ordre du Canada. Mmh. J'ai dit bravo à tout ça, à vous.
Merci beaucoup.
Tout au long de cette carrière, vos talents de communicateur, on le sent dans votre voix d'ailleurs, vous ont amené à être très présent dans les médias. À titre de conférencier, de chroniqueur, vous êtes, on peut vous décrire comme un guide de l'art, de vivre. Vous partagez votre amour au bon, du beau auprès d'un vaste public, ainsi que dans la continuité d'une carrière prolifique. Mmh. Voilà. C'est tout un livre, votre vie.
Oui, c'est vraiment une histoire hors des sentiers battus. J'en aurais fait qu'à ma tête, à ouvrir de nouveaux sillons. J'étais parfois trop visionnaire et tout, mais c'est les hauts et les bas d'une vie d'artiste. Oui. Mais j'ai la chance d'avoir encore ce feu sacré. Et puis cette année, évidemment, c'est une année très très particulière pour moi parce que je célèbre cette année mes 50 ans de création. Ma première petite collection est née dans un atelier boutique du Vieux-Montréal.
50 ans de création. Bravo,
alors,
félicitations.
J'ai pas vu le temps passer, mais je n'ai rien oublié.
Bravo et félicitations.
Merci.
Pour
merci
les 50
beaucoup.
Ans de vos créations. Waouh, quelle belle carrière. Alors, quand on est. Comment dirais-je, ça a commencé aujourd'hui, non? C'est le 27?
Oui, absolument. 27, hier, on avait 28. Un vernissage formidable.
Comment ça se passe, Jean-Claude?
Depuis ce matin, depuis 11h, les ateliers sont ouverts et ça repart de plus belle demain et après-demain. Et je serai là très, très souvent. Là, vous essayez de me voir si vous venez à ma rencontre au 2065 de la rue Parthenay.
Oui.
Je vais être très présent, surtout dimanche.
Oui. Comment on se sent à un tel événement comme ça en tant que porte-parole? Vous êtes au four et au moulin, on dirait, si je ne me trompe pas.
Oui, ben écoutez, je suis vraiment ému et tout, parce que vous savez, moi je n'ai jamais voulu travailler en silo. Et ce que j'ai retrouvé dans mon métier au départ de la mode, c'était à quel point les gens travaillaient de façon tellement individualiste, on n'échangeait pas avec les autres formes d'art, un designer de mode ne parlait jamais à un peintre, ne parlait pas nécessairement à un architecte, ou peu importe. Et moi, j'ai toujours été dans le décloisonnement des disciplines artistiques et culturelles. Oui. Alors moi, au contraire, je voulais, il y a tellement ce beau mot en mode qui s'appelle passerelle, et j'ai toujours voulu tendre des passerelles, en fait, entre mon métier de la mode et le cinéma et l'architecture et tout, oui. Parce que moi, je me nourris de tout ça. Et puis, mais c'était pas du tout la vision des gens à l'époque, là. C'était, on travaillait en silo.
Chacun dans son petit coin.
Oui, et puis je parlais déjà de pluridisciplinarité, de multidisciplinarité dans les années 80, et on me demandait toujours, mais de quoi parlez-vous? Et puis finalement, ben, l'histoire m'aura donné raison, parce qu'aujourd'hui, vraiment, le mot multidisciplinarité, le côté intergénérationnel, je me suis toujours entouré de gens de tous les âges, et surtout le côté multiculturel de Montréal qui m'a toujours absolument fasciné. Oui. Alors moi, j'ai toujours voulu être un rassembleur, un mobilisateur autour d'un projet de création porteuse de sens, à vrai dire. Oui. Et aujourd'hui, on dirait que l'histoire m'aura donné raison. J'ai la chance, finalement, en fin de carrière, de me retrouver dans ce rôle un petit peu d'ambassadeur de la créativité d'ici tout azimut. Et moi, je veux donc mobiliser les forces vives, mais aussi proposer des vitrines, un rayonnement extraordinaire à toutes ces artisanes des métiers d'art, mais ces artistes aussi.
Jean-Claude, attention, je prends la balle au bon. Pourquoi vous dites en fin de carrière, vous allez arrêter de créer?
Ben non, mais écoutez, la réalité, ça va rattraper. J'aurai 73 ans en juin, et puis Donc, c'est bien évident que j'ai encore la chance d'avoir la santé. Je me croise les doigts au moment où je vous parle.
Oui.
J'ai le feu sacré, mais aujourd'hui, ce besoin de transmettre aux jeunes, vous comprenez?
Oui, oui.
À la relève, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Je crois que ma vie, c'est longtemps... déroulé au jeu, mais aujourd'hui ça se passe, et je le veux comme ça, de plus en plus au nous. Et ça, pour moi, c'est très très différent. J'ai ce besoin de transmettre et de laisser une trace. C'est une école de pensée poitras qui, j'espère, va être reprise par des jeunes à qui j'ai insufflé mes principes de base de créer de la beauté tout autour de nous. Je crois que c'est Einstein qui avait dit « La beauté sauvera le monde ». Et moi, j'en suis persuadé. Je crois que ces dernières années de pandémie nous ont bien démontré à quel point il faut s'entourer d'un bel objet, d'un tableau qui nous touche. Alors donc, moi, j'ai toujours voulu créer de l'émotion et toujours arriver avec démocratiser la notion du beau, vous comprenez? Je suis à l'opposé de la surconsommation et tout, acheter moins, acheter mieux. Et puis là, avec toute cette conscience qu'ont les jeunes d'ici pour l'éco-responsabilité, l'idée de recycler, de récupérer, c'est formidable, parce que moi je me suis toujours inscrit dans ce mouvement slow. Ça a commencé peut-être en gastronomie, la slow food, le slow food, mais là c'est la slow fashion, le slow design, qui prend la place. Vous savez, on fouille dans nos racines profondes, d'où que l'on vienne et tout, et puis on fait rayonner notre authenticité. Cette quête identitaire, elle se passe de plus en plus, là. Et puis ce côté formidablement multiculturel de Montréal fait en sorte que Montréal, je pense à une couleur tellement particulière et unique qui ne ressemble à rien d'autre. Pendant des années, vous savez, on a toujours, à Montréal, on nous disait toujours, mais est-ce qu'on est une grande capitale de la mode? Moi, il faut arrêter de se comparer à Paris, à Londres, à Milan, à New York, peu importe.
Oui, il y a des gens qui font tout le temps la comparaison. Montréal, c'est Montréal. Paris, c'est Paris.
Absolument. Puis on a tellement regardé le style de Montréal qui rayonne partout dans le monde, en musique, en cinéma. Écoutez, des compagnies comme Moment Factory, nos cirques éloises, les sept doigts de la main, le cirque du soleil, ça va de soi. Mais c'est formidable. Et là, c'est après se passer à tous les niveaux. Et je crois que cette virée des ateliers nous le démontre. On bâtit la fierté. C'est extraordinaire. Mais avec aussi cette notion de co-création et de co-design. Alors, quand je vois une joaillière qui collabore avec une céramiste, avec une designer de mode et tout, c'est absolument fabuleux.
Oui. Comment est-ce que vos pères, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont appelé pour dire Jean-Claude, vous avez 50 ans de métier, qu'est-ce que vous nous laissez?
Ben, je sers la beauté en héritage.
Oui. Un adepte de la mixité.
Oui, et puis je pense que j'ai tellement été toujours quelqu'un qui a voulu rassembler, qui a voulu... Vous savez, j'ai traversé ma vie sans œillère, prête à tout aimer, et je suis québécois, francophone, fier de l'être, mais j'ai besoin du monde pour respirer.
Oui.
C'est pour ça que tous mes voyages m'ont tellement inspiré. Vous savez, j'ai créé l'année dernière une collection que j'ai appelée le Mali de mes amours, à la demande de l'ambassade du Mali au Canada, où j'ai pu travailler avec des coopératives de femmes au Mali sur les cotons extraordinaires, le savoir-faire qu'elles ont.
Oui.
Et puis ils ont voulu que je pose un regard neuf, plus contemporain peut-être, pour cette longue tradition des cotons maliens, avec les tisserandes, avec celles qui impriment. Et ça a été éblouissant. J'ai adoré faire ça. Et à ce moment-là, on voit que la mode peut vraiment prendre toute sa dimension lorsqu'on voit travailler ces femmes-là avec... Parce que moi, c'est une vie, en fait, consacrée aux femmes, hein, elles m'ont porté, elles m'ont supporté, m'ont tricoté, c'est sûr que je dois tout aux femmes, alors tout ce que...
Chacun de nous.
Oui, absolument, vous avez raison.
Oui, chacun de nous. Et Jean-Paul, une question un peu indiscrète là. Comment est venu, d'où est venu cette passion ou bien cet amour pour la mode?
C'est fou, mais je ne sais pas, parce que j'avais personne dans mon entourage, dans ma famille, qui était dans la mode.
Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein?
Non, mais écoutez, c'est fou, mais je vais vous avouer quelque chose qui m'a fait honte pendant tellement d'années, mais ma grand-maman adorée, qui était sage-femme et qui m'avait donné naissance, et mes parents étaient très très jeunes et habitaient la maison de ma grand-maman, qui était veuve, depuis juste un peu avant ma naissance, elle est devenue veuve, et on habitait sa maison. Et donc, autour de ma grand-mère, ben, plusieurs week-ends, surtout l'hiver et à l'automne, ben, elle réunissait mes tantes, des cousines, ma maman évidemment, et puis elle leur apprenait à coudre, à tricoter, à récupérer les vêtements. Alors, moi, je me revois enfant à voir ces gestes nobles, vous comprenez, de tisser, de tricoter, les vêtements, et on dirait que je me suis passionné pour ça et j'allais à la messe du dimanche et on dirait qu'il fallait que je me mette toujours près de l'allée centrale parce que je voulais voir toutes ces dames en dimanche qui revenaient de la communion et moi je me faisais déjà mes premiers défilés de mode. Et en secret, je jouais, j'habillais la poupée de ma cousine Lise. Et c'est fou, mais ma grand-mère, voyant que je me passionnais pour le vêtement, ben elle m'avait acheté une poupée aux grandes dames de mon papa. Donc pendant des années, j'habillais cette poupée en cachette évidemment de mon père. Et puis, mais c'est fou, mais j'avais cette grand-mère qui me disait, mais si Jean-Claude aime tellement ça, il n'y a pas de saut métier après tout. Alors, je sais pas, c'était inné chez moi, cette espèce de goût du costume, du vêtement, du décorum. Ce sont mes premiers souvenirs d'enfance, des souvenirs reliés à la mode.
Jean-Claude, si c'était à refaire.
Oh là là, je refais plus rien de pareil. C'est fou, mais je suis fier de ce que j'ai fait et tout. Mais vous savez, toujours, j'ai fait vraiment une œuvre de pionnier. Et puis quand on est de la race des pionniers, comme dit la chanson si cruelle de Raymond Lévesque, Beaujou les culottes, qui dit quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié. Mais aussi, c'est qu'on pose des gestes qui n'ont jamais été posés par personne. On ouvre de nouveaux sillons. Alors la route est parsemée d'obstacles, de haut, de bas. C'est sûr que j'ai jamais renoncé à mes rêves. J'ai toujours. Vous savez, j'avais été marqué un jour quand j'avais lu cette citation d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et ben moi, on dirait que ça a été ça mon destin. Ça a été de toujours m'accrocher à mes rêves. Et puis, mais il y a des moments où ça a fait une vie d'artiste très insécure. D'ailleurs, la femme de ma vie, mon âme sœur, m'a quitté parce que. C'est sûr que j'ai eu des années de gloire où j'ai peut-être pu faire beaucoup de sous. Il y avait d'autres années très très difficiles. Les trahisons aussi. Et puis en mode, c'est sûr que c'est un métier d'équipe. Alors c'est bien beau d'avoir le talent, mais encore faut-il bien s'entourer de gens d'affaires qui vous respectent, qui respectent votre âme, mais qui sont solides aussi au point de vue affaires. Il faut aussi avoir il faut s'assurer de la confection impeccable, il faut s'assurer d'une distribution aussi à la hauteur et tout. Et on dirait que en tant que créateur de mode ou designer en général, on est assis sur une chaise qui doit avoir quatre pattes, mais on dirait qu'il y a toujours une patte qui est bancale. En fait, la chaise devient bancale parce qu'il y a toujours la patte du financement ou la patte moi je me suis toujours occupé que la patte de la créativité soit bien solide, mais parfois j'avais pas les bonnes équipes de diffusion, de distribution parfois. Je sais pas, j'aurais envie d'être je crois que j'aurais aimé aussi avoir eu une vie plus équilibrée, parce que toute ma vie, et encore aujourd'hui, à 73 ans bientôt, je ne vis que sur du sable mouvant. Je veux dire, j'ai un mandat formidable et tout, ça se termine, est-ce qu'il va y en avoir d'autres, j'en sais rien. Puis aussi, les grands, je suis qu'un être plein de remises en question, de jamais satisfait de lui, qui veut toujours aller plus loin et qui finalement ne veut jamais répéter une recette non plus. Je veux toujours étonner, surprendre.
Oui, oui, nous surprendre avec vos collections, vos nouvelles, vos différentes nouvelles collections. Ce qui me plaît encore dans cette 13e édition, Jean-Claude, c'est l'espace V qui est de retour, hein, avec une nouveauté.
Ah, c'est formidable. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cet espace galerie, donc l'espace V, dès qu'on entre au 2065 de la rue Parthenay, on assiste à une galerie d'art formidable, et qui est là en permanence, mais avec des expositions
multifonctionnelles.
Mmh. Et donc, là, on peut voir la diversité, le kaléidoscope que représentent les trois immeubles, en fait, l'édifice Grover, mais il y a juste à côté une formidable coop qui s'appelle Les Arts. Et juste en face...
Il y a le chat des artistes.
Le chat des artistes, alors.
Avec 40 ateliers qui répartissent sur trois étages. Mais c'est des grands immeubles. Comment vous avez pu mettre la maison? Il nous reste une minute rapidement pour qu'on puisse se quitter. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais assisté à la virée des ateliers, surtout la virée du printemps. Un dernier mot, s'il vous plaît, pour la dernière minute qui nous reste.
Oui, alors là, évidemment, c'est ouvert, tout ça est gratuit, là, et on se balade dans les étages de ces immeubles-là formidables, et on a, dès l'entrée, eh bien, un dépliant qui vous indique est-ce que vous êtes à la recherche plus de céramistes, de designers de mode, de peintres et tout, et on vous indique dans les trois immeubles où vous allez découvrir tel peintre, où les céramistes sont basés là, celles qui travaillent merveilleusement le cuir, par exemple, si vous intéressez aux sacs de cuir, aux accessoires mode et tout. Alors là, vous vous baladez partout et tous les ateliers sont là avec les artistes, les artisans qui vous attendent, prêts à vous livrer leur âme, et puis on pose un regard différent, et puis c'est vrai, hein, je pense qu'Einstein avait raison, ces formidables artistes et artisans, ils sont tous motivés par cette même idée que la beauté sauvera le monde.
Merci beaucoup Jean-Claude Poitras, porte-parole de la virée du printemps, non, de la virée des ateliers, mais pour la 13e édition de la virée du printemps. Merci beaucoup Jean-Claude.
Merci à vous, c'est jusqu'à dimanche 17h.
Merci beaucoup, au revoir.
Je vous remercie énormément. Au revoir.
Au revoir.
Oh, tradition aches with imprecision.
But when things can't be explained. Young the Giant, superposition. On pourra écouter cette pièce en entier prochainement. Voilà, parce que j'avais d'autres choses à dire. Je voulais parler un peu d'archéologie parce qu'il y a des... Ah, je dis merci d'abord à Jean-Claude Poitras qui est venu nous parler de la 13e édition, voilà, de la virée du printemps qui commence aujourd'hui et se termine le 29. Ça parle de tout là-bas, hein. C'est pas seulement de mode, c'est tous les arts qui sont représentés. Et allez-y, il y a l'art, il y a la mode, il y a les métiers d'art et puis il y a plein, même des menuisiers qui sont présents, des ébénistes. C'est vraiment... Et merci à Jean-Claude, le porte-parole. Il est porte-parole depuis 2019. Donc, j'espère qu'il va toujours continuer à nous surprendre avec ses créations. Voilà. Voilà. Archéologie des égyptologues pris dans la... Des égyptologues, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Égypte, hein, pris dans la tourmente d'une suspicion de trafic d'antiquité. Il y a trois égyptologues qui ont été placés en garde à vue hier, d'ailleurs, depuis le 23, dans le cadre d'un soupçon de trafic d'antiquité. Voilà, antiquité. Un véritable coup de tonnerre, cette information, d'ailleurs. C'est le Canard enchaîné qui a révélé tout ça, depuis le 24 mai, et sous le titre « L'ancien patron du Louvre frappé par la malédiction de Toutankhamon ». Toutankhamon, c'est le jeune... Le jeune pharaon qui est mort à l'âge de 19 ans, c'est ce qui fait que c'est ce qui l'a rendu populaire parce qu'il était tout jeune. Et puis non seulement ça, ils ont retrouvé sa tombe. Les voleurs de tombe n'ont pas pu trouver sa tombe pour voler tout ce qui est à l'intérieur. Parce que quand un pharaon mourait, il était enterré avec toute sa richesse, tous ses biens. Alors, le placement, on dit, l'ancien patron du Louvre frappé par la malédiction de Toutankhamon. C'est le placement en garde à vue de Jean-Luc Martinez et deux autres égyptologues, pas des agents de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, OCBC, à la demande du juge d'instruction parisien Jean-Michel Gentil. Alors, donc, selon le célèbre hebdomadaire satirique, c'est-à-dire le Canard enchaîné, et l'ancien président du Louvre, le musée parisien qui figure parmi les plus importants au monde, serait soupçonné de trafic. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de trafic d'antiquité encore? Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé et ça va toujours exister. Imbroglio autour d'une stèle de Toutankhamon. Voilà. La stèle, c'est au Louvre, c'est, les gens se sont dit, mais là, c'est, bon, c'est une pierre dressée, parfois revêtue d'inscriptions ou de reliefs, hein. Ça peut être, c'est une plaque de pierre destinée à porter une inscription, plus souvent funéraire ou bien je ne sais quoi, c'est ce qu'on appelle la stèle. Donc, l'ex-président du Louvre, ainsi que le directeur du département des antiquités égyptiennes du Louvre et un chercheur rattaché à la chaire d'égyptologie du Collège de France, pourrait risquer une mise en examen pour blanchiment d'objets archéologiques détournés. Voilà. Stèle de la 18e dynastie. De la 18e dynastie portant un sceau royal du pharaon Toutankhamon, acheté par les Émiratis et le Louvre Abu Dhabi, Émirats Arabes. Ah, ouais, ils ont même un Louvre là-bas. C'est pas possible. Émirats Arabes Unis. En 2016, en même temps que quatre autres œuvres. Toujours selon le Canard enchaîné, bien sûr, les trois experts qui siégeaient au sein des commissions d'instances ayant délivré les autorisations d'achat auraient fermé les yeux sur les faux certificats d'origine. C'est ça. C'est pourquoi ils sont embêtés actuellement. D'origine de 5 trésors d'art égyptiens acquis par le Louvre Abu Dhabi pour plusieurs millions d'euros. Ah, comment l'homme peut être si facile à corrompre quand il voit les billets verts, les billets d'argent, je ne sais pas, ou bien des billets rouges, ou bien des billets jaunes, je ne sais pas. Mais, sincèrement, donc, mais les agents n'ont pas lésiné, ils ont remonté la filière pour arrêter ces trois grands messieurs, là, du Louvre, de France, de Paris, pour aller, ils ont vendu, ils ont eu de l'argent, pour aller alimenter le Louvre d'Abu Dhabi, pour plusieurs millions d'euros. Voilà, ils pensaient que leur retraite allait être dorée. Non, là maintenant, ils vont se retrouver au froid. Là, je ris pas, mais c'est pas, c'est des œuvres qui vraiment, il faut le dire, on joue pas avec ça. Merci à toi, Maurice. Parce que on se retrouve la semaine prochaine. Tu es là le lundi avec moi. Bonne fin de semaine à toi. Et on dit merci à notre invité, Jean-Claude Poitras pour la 13e édition du printemps de la vérité du printemps. Et puis mon cher, vos fidèles auditeurs, je vous dis merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci aussi à Catherine Bourdon, la recherchée de l'émission. Bourderon, pardon. Voilà, recherchée de l'émission. Prenez soin de vous, de vos minutes. Et sur ce, je vous dis ciao.